Merci. Ce matin, tout au long de la semaine, je savais que c'était mon tour. Hein, dans l'église ici, on a 3-4 prédicateurs. Alors priez aussi pour que des hommes et des femmes, je dis bien des femmes, se préparent aussi au partage de l'écriture et de la parole. On a besoin là aussi de se soutenir par l'enseignement et la parole de Dieu. Et j'avais, comme c'était mon tour, décidé de méditer, de réfléchir sur un texte. Et puis, j'ai eu un appel téléphonique vendredi soir avec un frère qui était en très grande difficulté, un frère pasteur. Et ça m'a fait revoir un petit peu, après notre long dialogue, le partage de ce matin. Et j'ai décidé de revenir sur un texte pour moi, est un texte important. Notamment dans l'Épître aux Hébreux, mais aussi dans l'Ancien Testament, un texte qui pose le regard et le focus sur trois choses essentielles. Alors, pour une fois, je ne fais pas souvent des illustrations, mais ces trois choses essentielles, je les ai posées ici. Je vous interdis de toucher à la baguette et au pain qui est là, parce que c'est le pain que je vais manger ce soir, donc je ne partage pas. Mais j'avais à cœur, à la suite de ce téléphone, qui a été un téléphone où il a été exprimé beaucoup de souffrance de la part de ce frère que j'aime particulièrement, et qui a décidé de ne plus exercer son service pastoral dans les conditions où il se trouvait. Et dans notre échange est apparu le fait que, très souvent, les difficultés et les crises que traverse l'Église sont le fait d'une absence de fondement. Des fondements essentiels qui doivent se trouver dans la vie de chaque croyant et dans la vie de l'Église. Quand je regarde le cheminement que nous avons eu ici, mais quand je regarde aussi la vie de l'Église tout autour de nous, je suis frappé par les situations de crise qui sont, dans les vies personnelles comme dans les vies d'Église, révélatrices de failles, de manques et d'absence de prise en compte des choses essentielles sur lesquelles repose notre foi et notre relation à Dieu. Alors, j'ai repris ce texte qui est tiré de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9 et au verset 3. On va dire même à partir du verset 2. En effet, un tabernacle avait été installé dans la première partie appelée le lieu saint. Se trouvaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Puis derrière le second voile se trouvait la partie appelée saint des saints. Elle contenait un brûle-parfum en or et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait une urne d'or contenant la manne, ainsi que le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Lorsque nous lisons l'Épître aux Hébreux, cette épître, dont l'auteur n'est pas véritablement connu, mais cette épître part de l'Ancienne Alliance, dont Paul dira « c'est un pédagogue pour nous ouvrir les yeux sur les réalités de Dieu ». Et quand nous lisons l'Épître aux Hébreux, c'est comme si ce pédagogue disait « maintenant, regardez ce que cela signifiait ». Et il y a dans la présentation de tout le culte juif, de tous les actes, de tous les objets même, il m'est arrivé un jour de parler des fondements, des poteaux qui entouraient le tabernacle, et de voir que même dans ces détails-là, Dieu disait des choses sur le poids que nous devions avoir en tant que croyants fondés en Dieu. Et dans l'Épître aux Hébreux, nous avons une explication de tout ce qui est essentiel à la foi. Ici, il est parlé de l'Arche de l'Alliance. Dans Exode 25, elle nous est présentée, cette arche de l'Alliance, qui est un objet, qui est décrit sur sa longueur, sur sa largeur, sur sa hauteur, sur les matériaux qui la composent, sur la manière de la porter, etc., etc. Elle est décrite avec beaucoup de détails, à la fois ce qu'elle est, ce qu'elle enferme, et sur ce qu'on en fera, ce qu'elle sera dans le culte juif. Aujourd'hui, c'est le Rosh Hashanah. C'est la fête, et je trouvais que c'était aussi, ou c'était hier, non, ou c'est dans, il y a une semaine, ah ouais, d'accord, bah j'ai une semaine de retard, là c'est l'anesthésie générale, hein, j'ai eu une semaine de coupure, mais en tout cas, on est dans la période du Rosh Hashanah, début de l'année, et je trouvais que c'était une fête importante peut-être à regarder. Peut-être une communauté aussi que nous avons à soutenir dans nos prières. Elle est particulièrement au centre de l'attention à la fois des opposants ou de l'opposition. Ce sont nos racines aussi, ne l'oublions pas. Je suis toujours très souriant quand je vois les tableaux de la Renaissance avec un Christ blond aux yeux bleus. Hein ? Ce sont nos racines. Et puis tout ce qui les a concernés nous concerne, nous aussi, en termes de compréhension de la foi et de la relation à Dieu. Alors je me suis arrêté sur cette arche d'alliance après cet entretien avec cet ami qui était vraiment, vraiment dans une grande souffrance. Et je me suis dit, tiens, ça me rappelle ceci. Quels sont les fondements de notre foi? Qu'est-ce qui est essentiel? Et cet objet qui est aussi précieux pour le culte juif. Je revoyais sur la télévision la rediffusion des aventuriers de l'Arche perdue, hein, avec la recherche de l'Arche de l'Alliance, avec des idées comme ça qui ont été émises comme étant un objet magique, renforçant une puissance inconnue. Mais en fait, il s'agit d'un objet où Dieu dit des choses pour nous aujourd'hui. Lorsqu'on s'arrête sur l'histoire d'Israël, un acte fort sur la révélation de Dieu vis-à-vis des hommes, ça a été le décalogue, les 10 commandements. Un texte où Dieu parle à Moïse et lui dit « Voilà quels seront les points essentiels sur lesquels le croyant devra s'arrêter, faire, ne pas faire. » Et puis Moïse, qui en est l'intermédiaire vis-à-vis d'Israël, va redescendre avec ses tables de la loi. Et puis il va être confronté au peuple en train de danser autour du veau d'or. De colère, il va briser ses tables de la loi. Et il remontera une deuxième fois. Il n'y avait pas de photocopieuse à l'époque. Il fallait remonter, revoir Dieu, rencontrer Dieu face à face et redescendre avec de nouvelles tables. Dans les ordonnances que Dieu donne concernant le tabernacle et sa construction au peuple qui va partir dans l'itinérance, eh bien, l'arche vient en premier. L'arche vient en premier. Et pourtant, pour le peuple d'Israël, c'est un objet qui n'est, à partir du moment où le tabernacle est construit, plus visible que par une personne une fois par an. Je dis, comment un objet aussi important peut-il être aussi caché? Et cela nous dit une chose, c'est que lorsque Dieu se révèle à nous, il sort du sanctuaire, il va vers le parvis, il nous présente d'abord ce qui est l'objet de son cœur, la personne de Christ. Et lorsque nous considérons le chemin par lequel nous nous approchons de Dieu, nous venons d'abord du parvis, à l'autel, puis à la cuve, et seulement ensuite nous pouvons pénétrer dans le sanctuaire, dans le tabernacle. Ça veut dire que nous arrivons à l'arche en tout dernier, à la personne de Christ. Il faut passer par les sacrifices, par la purification, avant de pouvoir rentrer. si l'arche est le premier objet placé devant nos yeux dans ces chapitres de l'Exode, c'est certainement parce que la personne de Christ doit être à la première place dans nos vies. La place essentielle. L'objet de notre affection. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Au psaume 132, il y a ce, vous rappelez, ces psaumes démontés que nous avons lus ensemble. Au psaume 132, nous voyons quelle importance l'arche avait pour David. Vous savez qu'au psaume 133, on aime bien lire « Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble ». Mais pour être des frères qui sont rassemblés, des sœurs rassemblées ensemble, et que ce soit agréable, pour que ce rassemblement se réalise, il faut aussi que nous soyons rassemblés par Christ. C'est le seul lien qui fait de nous une communauté, une réalité, un corps, une église. Dans le psaume 133, il est dit « Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. » L'arche de ta majesté. Dans d'autres traductions, il est dit « L'arche de ta puissance. » Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. Et au verset 17, « Là, j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon Messie. » L'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 16, disait « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Approchons-nous donc. Ce que Dieu fait en Jésus-Christ, c'est qu'il nous dit « Approche-toi. » Approche-toi. Là où dans l'ancienne alliance, il y avait le grand sacrificateur qui rentrait une fois par an et qui faisait l'aspersion du propitiatoire, du couvercle de l'arche, aujourd'hui en Jésus-Christ, nous avons ce privilège de pouvoir dire et répondre à l'appel de Dieu. Approche-toi et de pouvoir dire « Oui Seigneur, je peux, j'ai le droit, je suis justifié en Christ et je peux donc m'approcher. » La grande tristesse qu'il peut y avoir dans la gestion de nos crises personnelles ou des crises de l'Église qui sont des crises normales. Le rôle de l'adversaire, c'est de ne pas rendre la vie facile, le chemin aisé. Je n'aime pas beaucoup ce chant de Jeunesse en Mission où il est écrit et chanté « La vie est un tapis de roses ». Qui a vécu une vie comme un tapis de roses depuis qu'il est au Seigneur? Je dirais même, et Francine le dit souvent, c'est quand on se met en marche et qu'on s'engage pour Dieu que l'adversaire s'intéresse à nous. Méfiez-vous, méfions-nous d'avoir une vie semblable à un tapis de roses. Que nous soyons dans la paix, oui. Que nous sentions dans la sécurité en Christ, oui. Mais que nous pensions que la vie ne sera faite que de victoires et que d'un chemin tapissé de pétales de roses. Posons-nous les questions sur quel chemin nous marchons et dans quel engagement nous sommes vis-à-vis de Dieu. Approchons-nous donc, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Est-ce que je veux m'approcher? Est-ce que je veux saisir cette invitation que Dieu me fait à moi, à toi, de m'approcher de lui. Vous rappelez la sainteté qui entourait les choses de Dieu dans l'ancienne alliance, à tel point que nul n'avait le droit de toucher l'arche de l'alliance. Vous vous rappelez cet épisode où l'arche étant placée loin du peuple d'Israël, il a été décidé de le ramener, où David a dit « ramenons l'arche ». Il y avait des anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elle soit transportée par des hommes avec des barres. Archaïque. On va perdre du temps. Donc, on va la mettre sur un chariot. Et puis avec le chariot, ça a brinque-ballé, l'arche a failli basculer. Un homme l'a touchée pour la retenir et il en est mort. La sainteté de Dieu est là. S'approcher, c'est s'approcher de la sainteté de Dieu. On n'y va pas les deux mains dans les poches en faisant fi du péché qui est encore dans nos vies, en se disant, de toute façon, tout est réglé à la croix. Maintenant, je peux vivre comme je veux. Non. Il s'agit que la croix soit présente et effective par son œuvre dans notre vie tous les jours. Alors, je peux m'approcher de lui. Si par la foi, je proclame que le sang de Christ, aujourd'hui et maintenant, est valide pour moi. Approche-toi, approchons-nous. C'est l'appel de Dieu, mais pas dans n'importe quelle condition. Dans ce texte de l'Épître aux Hébreux, il est dit « derrière le second voile ». C'est étrange. Parce qu'en fait, dans la réalité, il y avait trois voiles. Il y avait le voile qui permettait de rentrer dans le parvis, puis il y avait le voile qui était le premier voile qui rentrait dans le lieu saint, et puis dans le lieu très saint, un troisième. En fait, l'auteur, tout simplement, s'intéresse aux voiles qui sont au niveau du tabernacle. Mais trois voiles, et ce qui est intéressant, c'est que ces trois voiles ont trois couleurs identiques. Le bleu, le pourpre et l'écarlate. La base des trois couleurs pour ces trois voiles, c'était cela. Ça veut dire que rentrer dans la présence de Dieu, rentrer même déjà dans le parvis, c'était passer par un voile porteur de ces trois couleurs. Ça avait du sens. Le bleu, c'est la couleur du ciel. C'est la couleur céleste. On ne rentrait pas pour rencontrer Dieu comme si on allait au marché chercher son pain. On ne s'approche pas de Dieu comme si on évoluait dans le monde. On commence à rentrer en ayant en considération que l'on rentre dans un espace céleste. Dans ce passage de Luc, qui parle notamment de certaines, Matthieu aussi, de certains miracles, etc. Il y a tout un enseignement sur le royaume de Dieu. On ne rentre pas dans le royaume de Dieu avec ses gros sabots bien crottés en se disant « Dieu est grâce ». Non, on rentre dans la présence de Dieu, dans le royaume de Dieu. On n'y rentre pas n'importe comment. Il est intéressant de voir que les premières difficultés rencontrées par l'Église au deuxième et troisième siècle, c'était une remise en cause de la divinité de Christ. Est-il vraiment d'origine céleste ? Ensuite, ça a été remise en cause de son humanité. C'est étrange comme aujourd'hui encore, au XXIe siècle, l'adversaire cherche à porter atteinte à cette caractéristique de Christ. Il est à la fois du ciel et de la terre, à la fois Dieu et à la fois homme. Ne remettre en cause qu'un de ces deux points, c'est remettre en cause la réalité du salut. Je rentre dans le parvis, la couleur du voile est marquée par le bleu du ciel pour dire « Prends garde, sois sérieux, tu rentres dans la présence de Dieu. » On ne mettra pas de voile et de rideau aux portes de l'église apostolique, à l'entrée du parking, à la porte d'entrée de la première salle, et puis ensuite pour accéder ici. Mais est-ce que cette conscience de la divinité de Christ est en nous aussi quand nous nous approchons de lui ? La deuxième couleur, c'était le pourpre. Ça voulait dire que Dieu est souverain. Il est notre roi. Alors J'avais un professeur au collège biblique qui disait « Non, 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 il est le roi d'Israël, il n'est pas le roi de l'Église, il est le seigneur de l'Église, mais ne mélangeons pas les choses. » On pourrait faire un débat théologique sur ce point, mais il est souverain. Qu'il soit roi d'Israël, seigneur de l'Église, il est souverain. Est-ce que lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, nous avons ce sérieux, mais aussi ce positionnement intérieur et spirituel, il est mon souverain. Je ne suis plus, entre guillemets, chef de ma vie. J'admets ma soumission et je l'accepte comme souverain. entrer dans la présence de Dieu. Entrer dans le parvis pour un juif, c'était déjà dire « j'accepte cette réalité de la souveraineté de Dieu ». Alors la souveraineté, ce n'est pas simplement quelque chose de théorique. Ce n'est pas, je dirais, un état comme cela qu'on accepte. Oui, je sais qu'un certain Emmanuel M. est président de la France. Concrètement, ça veut dire aussi des choses. Ça veut dire que ce qu'il décide, Dieu, dans son royaume, comme valeur, comme pensée, comme vérité, je l'ai fait mienne aussi. Il est souverain. Je lisais hier un passage d'un texte sur Caïn et Abel, la différence entre l'acceptation et le refus de l'offrande de l'un et de l'autre. Et puis l'auteur disait, c'était notamment Jean-Marie Nicole qui disait, un théologien évangélique, il disait, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi il y a eu acceptation, refus. Soyons sérieux, on ne sait pas vraiment. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui relève de l'acceptation de la souveraineté de Dieu ? Si Dieu dit qu'il a accepté et refusé, à un moment donné, on peut donner toutes les explications qu'on veut, mais est-ce que la base première, ce n'est pas de se dire, même si je ne comprends pas, j'accepte sa souveraineté ? Même si je ne comprends pas aujourd'hui ce qui se passe dans ma vie, la position de Dieu dans tel domaine, même si je ne comprends pas, j'accepte sa souveraineté. Est-ce que tu es ce matin aussi avec ces blocages qui existent et qui peuvent être aussi un frein dans ta relation avec Dieu ? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans sa présence en disant « Seigneur, là aussi c'est un acte de foi. J'accepte ta souveraineté. » La troisième couleur sur ces trois rideaux qui permettait d'accéder jusqu'à l'Arche de l'Alliance, c'était l'écarlate. Et l'écarlate, pour les Juifs comme pour nous, c'est une couleur essentielle. On n'entrait pas dans la présence de Dieu sans passer par l'autel des sacrifices. Je vous assure, l'Ancien Testament est un merveilleux pédagogue pour nous apprendre qui est Christ, qui est le Père qui nous donne son Fils et qui dit « Regarde cette couleur qui est là, pour arriver jusqu'à moi, il faut que tu passes par cette réalité. » L'écarlate, c'est le sang versé pour le salut. Aucun juif ne pouvait entrer dans la présence de Dieu, aucun prêtre sacrificateur, soit-il, ne pouvait aller plus loin sans que le sang soit versé. Est-ce qu'aujourd'hui, ce message-là est encore un message valide ? J'ai l'impression que le message de la croix est quelque peu dilué. Qu'est-ce que j'entends comme message tournant sur l'évangile de la prospérité, la réussite, le fait d'être des leaders, de recevoir de la puissance, et tellement moins de messages qui nous disent si tu es là, si tu peux rentrer dans la présence de Dieu, cela ne peut être que par le miracle de la croix, le sacrifice du Fils de Dieu qui s'est fait homme. Regarde cette couleur écarlate qui est le signe du sang versé pour toi, pour moi. La porte du parvis et la porte du lieu saint et le voile du lieu très saint avaient ces mêmes couleurs. Et puis on arrivait dans l'Arche de l'Alliance, dans le lieu très saint, je vais y arriver déjà maintenant parce qu'on pourrait dire plein, tellement de choses sur ce parcours qui parle du salut, qui nous donne des images. Moi, j'ai envie de dire, c'est presque une bande dessinée, tellement chaque objet a un sens sur le fondement de ce qu'est notre salut et notre relation à Dieu. Mais je veux arriver à l'Arche de l'Alliance. Dans l'Arche de l'Alliance, il y avait ce témoignage de la révélation. C'était un lieu de révélation, l'Arche de l'Alliance, de ce que Dieu était pour Israël et de ce qu'il est pour nous aujourd'hui. C'était un message caché, puisque je disais que finalement, l'Arche de l'Alliance, quand le peuple suivait Moïse et que Dieu se révélait par une colonne de feu la nuit, une colonne de fumée le jour, tout le monde voyait l'Arche de l'Alliance jusqu'au moment où elle a été posée dans le tabernacle. Et là, tout à coup, cette arche disparaît du regard des communs. Mais dans l'esprit et dans le cœur de tout juif, il savait ce qu'elle était, ce qu'elle représentait. Nous parlons de Jésus. Nous disons ce qu'il est, ce qu'il représente, ce qu'il contient comme richesse pour nous. Mais hormis quelques privilégiés, combien l'ont vu sur ces 20 derniers siècles? Certains l'ont vu. On a eu des témoignages d'hommes, de femmes qui ont vu le Christ. Quel privilège, mais pour la plupart d'entre nous. Il est caché, il est élevé. Nous percevons sa présence. Mais dans notre cœur et dans notre mémoire, nous sommes comme les Juifs qui se disent « Nous savons que l'arche est là. » Nous le savons. Et nous proclamons chacun pour notre part « Je sais que Christ est là. » Je le sais. C'est une réalité. La première chose qu'il y avait dans l'Arche de l'Alliance, c'est une chose étrange. Du pain. De la manne. C'est pour ça que j'ai mis un pain sur une baguette sur cette table. On retrouve cela dans le livre de l'Exode. Quand Dieu dit à Moïse, et Moïse dit à Aaron, « Prends un vase, mets-y de la manne plein un homère et dépose-le devant l'Éternel afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Un homère. C'est une quantité, je ne sais plus trop à quoi ça correspond, mais c'est la quantité que chaque juif devait ramasser chaque jour pour lui-même et puis pour les personnes qui étaient dans sa maison. Un homère. Mais dans l'Exode, livre de l'Exode, il est dit qu'un homère, c'est un dixième de l'épha. C'est une autre quantité. Donc, 10 homères, ça faisait un épha. Ça veut dire quelque chose, c'est que ce que saisissait chaque juif, un homère, c'était une partie, un dixième de tout ce qu'il y avait encore qu'il aurait pu prendre. Moi, j'aime beaucoup cette image-là. Il y a un homère dans l'Arche de l'Alliance, une manière de dire, c'est qu'un dixième de tout ce que tu aurais pu prendre. Mais c'est ce dont tu vas avoir besoin. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, nous saisissons une toute petite partie de ce qu'est Christ. Nous le saisissons qu'en partie. Quand je pense à ce que Christ est, dans la réalité, ce n'est même pas un dixième. Pour donner un exemple un peu plus concret à ceux qui utilisent l'informatique, j'ai envie de dire que si vous utilisez Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint et quelques autres applications, je pense que vous êtes à peu près comme moi. Vous en utilisez 5% de ces capacités, non? Il y a des fois, je découvre des choses, je dis « Ah bon, on peut faire ça !» Et puis, je pense que je dois être entre 5 et 10% des capacités du logiciel que j'utilise. Nous autres chrétiens, quand nous contemplons Christ, quand nous prenons conscience de ce dont nous profitons dans notre quotidien et dans notre vie, on prend un épha ou un homère, et pas un épha. Mais un jour viendra où nous le contemplerons face à face, où nous pourrons saisir tout ce qu'il est. Heureusement qu'on aura toute l'éternité pour en profiter. Cette manne présente dans cette arche de l'Alliance, c'est une manière pour Dieu de dire au peuple d'Israël, regarde, rappelle-toi que dans le coffre de l'Alliance, il y a cette manne qui t'a nourri pendant 40 ans, qui a été fidèle jour après jour. Et quand on relit l'évangile de Jean et qu'il parle du pain qui nous a été donné et qui est descendu du ciel, c'est l'explication que Christ en donne dans l'évangile. Il dit, voilà, vous êtes venus vers moi parce que vos pères ont reçu du pain qui est descendu du ciel pendant 40 ans. Or moi, je vous dis que je suis le pain vivant et que celui qui me mangera n'aura plus jamais faim. Donne-nous toujours de ce pain! Et ce pain, c'est la parole incarnée. Est-ce que nous mangeons de ce pain jour après jour? Manne. J'aime à me rappeler que quand les Juifs ont ouvert les tentes le premier matin et qu'ils ont vu cette manne descendre sur le désert ou là où ils se trouvaient, la première question qu'ils ont posée, c'est « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?» En hébreu, c'est man ou man. Qu'est-ce que tu as mangé pendant 40 ans ? Du qu'est-ce que c'est ? Je sais pas trop, mais c'était du qu'est-ce que c'est. Mais tous les matins, il y avait du qu'est-ce que c'est. Hein, je dis souvent que les Allemands, quand ils sont arrivés et qu'ils sont entrés dans Paris et qu'ils ont vu l'architecture et qu'ils ont vu les petites fenêtres sur les toits, ils ont dit « Was ist das ? Was ist das ?» Puis les Français ont dit « Bah... Ouais, certainement, c'est des vasistas. Donc, ils ont utilisé ce mot-là, vasistas, vasistas. Donc, on a tous maintenant des vasistas dans nos maisons. Man, ou qu'est-ce que c'est ? Ah, moi, je trouve que cette question-là, qu'est-ce que c'est ? C'est une bonne question à se poser. La présence de Dieu est dans la Bible. Oui. Mais dans une Bible sur laquelle on réfléchit, on travaille, on médite. Et c'est à la fois lorsqu'on a la parole de Dieu et la question posée sur cette parole qu'on a une chance de trouver la présence de Dieu. Se poser en lisant l'Écriture toujours et encore. Qu'est-ce que c'est ? Quel est le mystère que Dieu veut me révéler ? Se poser des questions sur la parole de Dieu, l'interroger, la méditer, c'est éviter de basculer dans le fondamentalisme, où on prend des textes et on les applique stricto sensu. J'utilise souvent ce texte de la Genèse avec l'alcoolisation de Noé et la malédiction qui a pesé sur Cham, et comment au XVIe siècle, l'Église a lu de manière fondamentaliste, le fait que Cham devait être l'esclave de ses frères, ce qui a rendu possible, souhaité, l'esclavage des Noirs. C'est ce qui fait qu'on a un musée de la Compagnie des Indes, ici à Port-Louis, qui rappelle combien l'Orient s'est construit sur la richesse de l'esclavage et du commerce triangulaire. Se poser la question, qu'est-ce que c'est ? C'est se dire que si jamais on cherche des réponses dans la Bible, je ne suis pas sûr que si on cherche des réponses dans la Bible, on trouve la présence de Dieu. Mais si on se pose des questions, qu'est-ce que c'est ? Qu'on médite la parole de Dieu, alors c'est par ces questions-là que l'on avance. Parce que la question est là, la Bible est là pour nous questionner, nous interroger, nous secouer, nous déranger. Et c'est parce que nous lisons cette parole en nous posant des questions que nous pouvons grandir et avancer. Il me semble que la lecture de l'Écriture doit se faire dans ce sens-là. Et il me semble que ceux qui ont le don d'enseigner, et nous en avons croisé dans notre vie, dans notre Église, sont là aussi pour nous interpeller et nous permettre de nous questionner sur ce que nous croyons sans être posé la question. La Bible nous interpelle. Elle nous oblige à nous questionner, à questionner nos actes, nos pensées, notre foi elle-même. C'est une Bible sur laquelle on a le droit de se poser aussi des questions, même si c'est un texte, entre guillemets, sacré. Je me rappelle qu'une fois, alors je le dis souvent, ça choque parfois, j'avais croisé des gens que je ne connaissais pas et qui étaient sur un lieu où leur fille était morte, et j'ai fait une chose insensée une dizaine de jours plus tard. Comme je savais qu'ils revenaient deux fois par an, mais que je ne serais pas là, je suis allé enterrer une Bible en soulignant les passages qui pouvaient être une réponse à leur souffrance. Leur unique enfant disparu. Enterrer une Bible, est-ce que ce n'est pas un sacrilège? Ce n'est pas le papier. Ce n'est pas l'encre qui est importante. C'est ce que Dieu veut nous dire et nous interpeller dans ce que nous sommes et ce que nous vivons. Il y avait le bâton d'Aaron, le bâton d'Aaron dans cette arche de l'Alliance, le bâton d'Aaron qui fait référence à un épisode de révolte. Alors, là aussi, c'est important de se questionner, de se poser des bonnes questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Nombre 17:1, la révolte des chefs d'Israël vis-à-vis de Moïse et aussi d'Aaron et de Myriam fait que Dieu est obligé d'intervenir. Et il dit à Moïse au chapitre 17, « Fais-toi donner par eux un bâton selon leur famille, soit 12 bâtons de la part de tous leurs princes selon leur famille. Tu écriras le nom de chacun sur son bâton. » Vous connaissez l'épisode ensuite. Le bâton reste dans la tente d'assignation, et le lendemain matin, un bâton a fleuri et a porté des fruits, des amandes. Hein, j'ai apporté un bâton. Oh, je suis pas sûr que ce soit un bâton d'amandier. Il m'a accompagné dans bien des randonnées. Mais ce bâton dont il est parlé ici parle de l'autorité. Dans le contexte du récit, il s'agit bien d'un récit de révolte, de refus de l'autorité, non pas d'un homme, et en l'occurrence de Moïse, mais de l'autorité de Dieu. Et la question qui se pose en demandant à ce que le bâton d'Aaron soit dans l'arche de l'Alliance, c'est une question que Dieu nous pose, c'est « Quelle est mon autorité pour toi dans ta vie ?» Dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, au chapitre 4, verset 11, il est dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Cette proclamation proclame l'autorité de Dieu, du Dieu créateur, de la terre, du ciel et de tout ce qu'il renferme. Tu es celui qui doit recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Tu as toute autorité. Nous pouvons nous rappeler de ces versets dans le Nouveau Testament qui parlent de l'autorité de Christ à laquelle toutes les nations un jour seront amenées à plier le genou. Christ, en montant à la croix, a accepté de se donner, de régler ce qui était conflit entre Dieu et l'homme, afin que nous puissions retrouver cette réconciliation et cette relation. Mais il a fait aussi de la croix le marchepied de son trône. Il a aujourd'hui toute autorité sur la terre, sous la terre et sur toutes les puissances. Est-ce que il a cette autorité? Et ce qui me fait sourire, c'est que souvent nous le disons bien facilement. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il a autorité sur ma vie? Tout autour, Seigneur, tu as autorité! Mais ce que nous dit la parole et ce que Dieu nous dit par l'Esprit Saint, mais est-ce que j'ai autorité sur ta vie? Ou est-ce qu'il y a encore et toujours des parts de ton existence où je ne suis pas ce souverain qui a toute autorité? J'ai entendu dans le texte qu'a lu Michel tout à l'heure, qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ne nous méprenons pas. Le bâton d'Aaron ne dit pas que tout Israël devait se soumettre à l'autorité d'Aaron. Il est dit que tous devaient se soumettre à ceux qui sont sous l'autorité de Dieu. Et lorsque ce texte a été lu ce matin, nous sommes tous souverains sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Vous êtes, dit Pierre, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2,9. Nous avons aussi, si nous sommes sous l'autorité de Christ, détenteurs de son autorité dans ce monde. Vous n'avez pas à être dépendant de l'autorité de Jean-Marc Wangto, de tel ou tel pasteur, mais bien de Christ, et en Christ d'être détenteur de cette autorité qui est une autorité d'amour dans ce monde qui a besoin de connaître Christ. Et puis il y avait dans l'Arche de l'Alliance les tables de la loi. Alors les tables de la loi, vous connaissez l'histoire, vous connaissez le récit, comment ces tables sont arrivées dans cette arche. Alors je vous ai amené une Bible. Il y a une personne qui sait d'où vient cette Bible. Je vais la prendre, comme ça on va. Je ne veux pas faire d'erreur sur les dates. Elle est dans ma bibliothèque. C'est une Bible qui vient de l'Église évangélique réformée du canton de Berne. Au nom de l'Église, cette Bible a été offerte à Beauvais Charles Gustave Louis et à Gontier Marguerite Amélie, le 6 octobre 1945. C'est la Bible de mariage de mes beaux-parents. Je l'utilise peu, c'est vrai. Mais quand nous avons réparti un petit peu les objets courants de la maison, moi j'ai tenu, et Francine aussi, à récupérer cette Bible. Dedans, il y a registre de famille, naissance. Marianne, 13 août 51, la sœur de Francine. Francine, 8 décembre 53. C'est très aidant pour moi qui ai une mauvaise mémoire sur les anniversaires. Il suffit d'aller dans la Bible. Et puis après, ce qui peut m'attrister, c'est qu'il y a les baptêmes, première communion, les naissances, les décès, les autres événements. Tout est vierge. Tout est vierge. Combien y a-t-il de paroles de Dieu qui sont vierges ou peu marquées des événements de ceux qui l'ont reçu? Je ne pense pas avoir vu une seule fois mes beaux-parents lire cette parole de Dieu, cette Bible. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas la foi, notamment sur ce qui concerne ma belle-mère. Mais en feuilletant cette Bible, dans le livre d'Ésaïe, alors qu'au chapitre 42, et à cette page-là, ce n'est pas moi qui l'ai mis, chapitre 42 d'Ésaïe, il est écrit « Voici mon serviteur, celui que je tiens par la main, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il fera régner la justice parmi les nations. Il ne criera point, il n'élèvera point sa voix, il ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau froissé, il n'étouffera pas le lumignon qui va s'éteindre. Il fera régner la justice en toute vérité. Il n'aura ni défaillance, ni découragement, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et les îles mettront leur confiance en sa loi. » J'ai ouvert la Bible hier, parce que je cherchais une Bible, puis d'un coup je me suis dit, mais cette Bible-là, elle a du sens, une Bible familiale. Nous, on a reçu une Bible de mariage, je crois qu'elle est usée jusqu'à la corde, je crois qu'il y a des morceaux qui s'en vont tellement elle a été ouverte. Hein. Et quand j'ai ouvert cette Bible-là, à l'intérieur, à cette page-là, j'ai trouvé ceci. Vous voyez bien? Non ? Un trèfle à quatre feuilles. Je me suis dit qu'au chapitre 42, où est écrit l'importance de loin de l'Éternel, du Messie qui vient, il y avait un trèfle à quatre feuilles. Ça parle. Ça parle de la manière dont la parole de Dieu est présente dans le temple que nous sommes. Vous êtes le temple de l'Éternel. Est-ce que dans votre arche, l'arche que vous êtes, il y a cette parole avec la place qui est la sienne, une parole que nous méditons, que nous questionnons, que nous interrogeons, que nous n'avalons pas comme ça sans réfléchir à ce qu'elle est. Est-ce que le rendez-vous avec la parole de Dieu est de cet ordre-là, ou est-ce que la parole est mêlée de nos croyances ? Un président américain vient de désigner un juge à la Cour suprême des États-Unis, une des instances les plus importantes. En faisant cela, suite au décès d'une femme qui était une figure dont on a peu l'idée ici en Europe, qui avait plus de 80 ans, et il s'est dépêché de délire une autre personne, une manière de bloquer la Cour suprême où les membres sont élus à vie. Donc il a fait ça le plus vite possible avant les élections présidentielles, qui pouvaient lui faire courir le risque de voir la Cour suprême basculer d'un autre camp, du camp républicain au camp démocrate. Et hier, il a dit une chose. Vous vous rendez compte ? Si c'était les démocrates qui passaient, eh bien, il n'y aurait plus le droit de faire figurer le nom de Dieu sur les billets ou sur les instances de notre pays. J'ai le sentiment qu'il y a certaines croyances concernant Dieu qui sont semblables à ce trèfle à quatre feuilles, qui sont très loin de ce qu'est la relation de l'homme avec son Dieu. Je ne suis ni pour ni contre que Dieu soit présent sur les billets et les dollars. Bon. En même temps, je pense à ce verset de l'évangile de Luc qui dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Le nom de Dieu sur les billets, ça ne me semble pas être la place idéale. Mais la place de la parole de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, notre rapport à cette parole, non pas une parole que nous prenons et que nous photocopions pour la mettre à l'intérieur en disant « Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit », mais cette parole qui nous confronte et nous laissons le Saint-Esprit nous interpeller, nous changer, nous transformer. Là, oui. Je ne sais pas combien d'hommes et de femmes se sont convertis en sortant un billet de 1 dollar sur lequel était écrit « In God we trust ». Mais je sais la puissance de la parole de Dieu. Dès lors qu'elle est dans l'arche de l'Alliance, au plus profond de notre cœur, on ne la voit pas, mais elle accomplit son œuvre. Elle nous révèle Christ. Elle transforme les vies. Elle guérit, elle relève ceux qui sont fatigués et blessés. Je sais et nous savons la puissance de cette parole. Est-ce que nous sommes prêts à nous débarrasser des trèfles à quatre feuilles qui encombre cette parole dans nos vies, ces fausses croyances, et de dire « Seigneur, ta parole est en moi, je suis le temple du Saint-Esprit, ouvre-moi ta parole, ouvre-moi ta parole. » Nous pouvons être des signes de la présence de Dieu. Dans l'Évangile, il est écrit cette pensée très semblable, que vos œuvres bonnes, tout ce que Dieu nous fait faire, soient visibles aux yeux de tous les hommes et qu'ainsi ils glorifient Dieu qui est dans le ciel. Alors que tous les autres glorifient Dieu parce qu'il voit ce que Dieu opère en vous. Amen. Seigneur, merci pour le modèle que tu nous as donné dans ta relation avec Israël. Donne-nous de pouvoir là aussi plonger nos regards dans ce cheminement de foi, de vie, de soumission, mais aussi d'erreur, d'éloignement, parce que nous sommes semblables à Israël, avec les mêmes fragilités, mais aussi avec les mêmes désirs, les mêmes envies. Alors Seigneur, que ce que nous partageons ce matin puisse nous déranger pour nous amener à sonder ta parole, à laisser ton Esprit Saint, là aussi nous questionner, nous renvoyer à nous-mêmes. Donne-nous de pouvoir laisser ton œuvre et ta vie s'accomplir, parce que si nous sommes nés de nouveau, nous avons tellement à grandir. Et pour ceux qui sont encore dans l'attente, merci de toucher les cœurs par ton amour et par ta grâce, d'enlever toutes les peurs qui peuvent exister, toutes les idées préconçues qui empêchent de se donner à toi. Tu es celui qui vient du ciel sur la terre, qui accepte d'être homme et Dieu tout à la fois. Que ce bleu du ciel soit dans nos cœurs, dans nos âmes. Que le pourpre de ta souveraineté soit réel, Seigneur, réel dans nos existences. Que nous ne décidions pas de conserver des parties de nous-mêmes en dehors de ta souveraineté, de ton autorité. Que l'écarlate du sang versé à la croix soit toujours sous nos regards, mais aussi sous le regard de ceux qui nous voient, en se disant, il a trouvé, elle a trouvé le chemin de la réconciliation. Seigneur, donne-nous d'entrer et de demeurer dans ta présence. Amen.